Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête, et on commence de suite avec Max et Aïcha.
Wouh ! Et ouais, on commence de suite avec Max et Aïcha. Bonjour, bonjour ! Et écoutez bien, chante et danse avec Ronald McDonald. Ouais ! Allez ! Et chantez, dansez, on peut tous y arriver.
Ouais, ouais.
Avec toi Ronald, c'est pas compliqué, on va tous y rester.
Ouais, ouais.
Chantons, dansons, il faut lever les pieds.
Ouais.
Et aussi,
ouais.
Bien articuler. Ensemble, R O-N-A-L-D-S.
Ouh,
ça se passe comme ça, ouais, chez McDonald's. Eh, hey, j'ai une bonne nouvelle. Aïcha est là. Aïcha,
ouais.
Je t'invite à passer de l'autre côté. Il y fait beau et c'est rigolo. Ouais.
Ouais, allez. Tais-toi, laisse parler Aïcha. Stop. Stop.
Allez, stop.
Bonjour Aïcha.
Bonjour Aïcha.
C'est à toi.
Bonjour, donc je suis Aïcha, je suis la personne qui avait lancé la pétition contre le McDo. Et donc je viens aujourd'hui vous parler aux auditeurs du point 2 mois après cette pétition. Nous avons eu 2700 signatures.
Bravo.
Merci. Quand nous étions à environ 1200, 1500 signatures, les militants sont allés voir à tour de rôle le maire pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Et le maire a dit à plusieurs militants que cette pétition n'était pas valable par rapport au fait que c'était dans toute la France et que ça ne concernait pas uniquement la ROC. Donc nous avons lancé une pétition papier et nous avons arrêté de compter à partir de 400 parce que nous avons bien vu que toute la pratiquement toute la population laroquoise était contre ce McDo. Donc partant de là, nous avons commencé à préparer des dossiers pour organiser une rencontre avec le maire pour le convaincre d'une autre manière, puisque le maire lui-même se rendait bien compte que la population était opposée et qu'il fallait que nous apportions d'autres arguments au maire, puisque la population elle-même venait me voir et me disait « il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça ». Donc qu'est-ce qu'il faut dire au maire, puisque j'ai rendez-vous avec lui, et moi et d'autres camarades, nous avons rendez-vous avec lui mercredi après-midi à 16h à la mairie de La Roque. Nous allons lui montrer, nous allons lui prouver que La Roque n'est pas adaptée, étant donné que les lois de l'urbanisme ne permettent pas d'ouvrir un fast-food dans un lieu qui est protégé. Donc nous sommes, La Roque est située dans les gorges de l'Hérault, zone protégée, zone à 2000. Et déjà, rien que par ce fait, ce n'est pas compatible avec un fast-food.
Oui.
D'autre part, l'accès de la Roque. Nous sommes un petit village qui a grandi très vite, passé de 300 à 1700 habitants, mais sans revoir le réseau routier. Donc nous n'avons pas d'autres possibilités, malheureusement, étant donné que la route principale qui est conduit à La Roque vient soit de Ganges, soit de Saint-Bosile, et c'est une route étroite qui longe l'Hérault. Donc aucune possibilité de l'agrandir.
Attention, ils vont vous poser une station de métro ou un aéroport.
En tout cas, c'est impossible. Heureusement d'ailleurs que c'est impossible, que nous sommes en France. et que le fait que nous soyons de plus en plus écologiques, donc de plus en plus militants contre ce genre de structure, fera que ça ne marchera jamais. Ce sera toujours la nature qui gagnera de toute façon.
Les 400 à la Roque, comme dans le film.
Voilà. Et donc, pour revenir aux accès, les accès sont impossibles. Il y a eu un moment, j'ai entendu un projet de rond-point qu'il fallait casser la berge de l'Hérault, mais en fait, c'est irréaliste, utopique et heureusement impossible. Ouais. Donc, les accès impossibles sur la Roque, l'écologie ne permet pas ça. Et d'autre part, un McDo ou un Burger King ou un autre fast-food ne permettrait pas à la population d'être tranquille, d'être sereine. Il faut savoir que 50% de la population laroquoise vient de l'extérieur, n'est pas née sur place, mais s'est installée à La Roque pour être tranquille. Ce sont des retraités ou des familles qui fuient la ville, qui fuient justement les nuisances provoquées par des restaurants comme les fast-food. Donc le maire et les autres élus doivent entendre que ce n'est pas compatible avec la vie que les Laroquois veulent.
Oui, sinon ils seraient restés en ville. En fait.
Voilà, c'est ce que tout le monde me dit. Je suis celle qui doit être la plus sollicitée en ce moment quand je sors de chez moi, parce qu'à chaque fois, les personnes m'arrêtent, me parlent, me disent « n'oubliez pas de dire ça, n'oubliez pas de dire ça ». Et donc, j'espère que je n'oublierai pas, mais j'ai retenu le principal. Le principal, c'est que les Laroquois disent au maire « vous n'êtes pas ministre du Travail, vous n'êtes pas ministre du Développement, vous êtes notre maire, vous n'êtes que notre maire ». Et vous devez gérer avant tout vos administrés.
Tout à fait. D'accord. Donc, vous avez bon espoir quand même. De toute façon, vous avez un avocat, non ?
Oui. Alors, au départ, moi, à titre personnel, j'avais pris un avocat spécialisé dans l'urbanisme installé à Paris, que je connaissais déjà. Donc, tout de suite, j'ai été rassurée. Il m'a tout de suite dit, voilà, les arguments, c'est ça, ça, ça. Et donc, j'ai écrit dès le lendemain de ma pétition, j'ai écrit une lettre avec d'autres personnes du collectif. La lettre a été envoyée, je n'ai jamais reçu de réponse du maire. Par contre, j'ai reçu une réponse du propriétaire du terrain, une réponse de 4 pages, qui argumentait justement... Le développement, le travail, que les gens qui ont construit là, ben, ils n'avaient qu'à aller ailleurs parce que c'est un terrain, c'est un terrain commercial. Donc, bien entendu, cette lettre m'a mise très en colère. Je n'ai jamais répondu à cette lettre, jamais, mais je ne l'ai pas encore digérée. Que quelqu'un puisse se permettre cette arrogance, cette suffisance.
C'est histoire de préciser, elle n'a pas été faite par l'avocat ni...
C'est la lettre du propriétaire du terrain qui a répondu à la lettre que j'ai envoyée au maire.
Celle que tu as envoyée au maire à la base, je veux dire, tu as appelé un avocat pour avoir des précisions au niveau de l'affaire, mais il n'a rien à voir avec la lettre, quoi. C'est pas lui qui est à l'initiative de la lettre,
oui.
Qui a écrit quoi que ce soit.
Alors, je me suis peut-être mal exprimée. J'ai envoyé une lettre au maire. Suite à cette lettre que j'ai envoyée au maire, qui était signée par moi, mais écrite par le collectif, nous l'avions écrite ensemble. Cette lettre a été envoyée au maire. Quatre jours plus tard, j'ai... par conscience, parce que c'est une petite ville, j'ai envoyé une copie au propriétaire du terrain. Et c'est le propriétaire du terrain qui a répondu, une lettre de 4 pages, remplie d'arrogance, remplie de condescendance. Et c'est cette lettre que je n'ai pas encore digérée, parce que jusqu'à aujourd'hui, je me dis, en 2025, il y a encore des personnes qui se permettent de parler comme ça, qui pensent qu'ils ont le pouvoir.
On va vous
le
lire, chers auditeurs, vous avez une demi-heure à...
Non.
Alors là, ça va être plombant, mais c'est comme ça. Il faut s'engager dans la vie.
J'épargne ça aux auditeurs.
Bon.
On va pas faire ça.
Donc le combat continue.
Le combat continue.
Vous avez plutôt bon espoir, parce que juridiquement...
Oui, juridiquement, je sais que nous allons gagner. Oui, je sais que nous allons gagner.
Vous freinez le projet, même si... s'ils veulent continuer, vous pouvez dire bah non.
Mais en fait, j'ai envie de gagner du temps, de l'énergie, de la tranquillité.
Oui, ça serait mieux que on dise bon bah non, pas de McDo.
De la sérénité. Et puis nous sommes en période électorale.
Oui, c'est ça.
Donc le maire ne doit pas l'oublier. Il doit entendre aussi, lui et son équipe municipale, que la population en majorité est contre le McDo.
Pour ce qui est du travail ou de la création d'emplois, il ne faut pas oublier aussi que ce qui créerait peut-être de l'emploi va en enlever à d'autres. Hein,
parce qu'il ne
faut
emploi,
pas
quoi.
Se leurrer. Ça
oui.
fera fermer des restaurants.
Exactement.
Des bars aussi. Enfin, vraiment. Ce qui fait la vie d'un village ou d'une petite...
Devenez équipier à McDonald's. Allez, chantez.
Donc, non, il faut qu'il y pense. Et... Bah, je vous souhaite de réussir.
Merci
et
beaucoup.
Et puis, on se tient au courant après votre réunion.
Oui, je vous tiendrai informé. Merci de m'avoir
allez,
reçu.
Et on dit tous merci à Aïcha, comme à McDonald's.
Merci à vous.
Aïcha. Merci à Aïcha.
Merci beaucoup.
C'était OSF, c'était la fin du monde. Ah oui, au fait, pour OSF, on cherche un bassiste si ça vous intéresse et vous pouvez me contacter par mail. Donc le mail c'est max@osf34.fr. Et maintenant, on retrouve Jean-Michel en direct du bunker.
Salut les loulous, salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais!
J'ai entendu!
Ouais!
Ouais, bah voilà, c'était la fin du monde, j'espère que vous n'êtes pas tous barrés dans vos abris anti-atomiques et qu'il reste au moins encore quelques auditrices cette heure. Bah, comme il n'y a pas assez de musique sur Radio Escapade, on va parler musique, alors faites valser vos idées. À vous de deviner de quel groupe ou de quel artiste je parle, vous allez me dire, mais c'est un quiz!
Mais c'est un quiz.
Mais oui, les amis, c'est un quiz. D'abord, on se met en condition. Allez, on sort de son bunker, on se concentre, on se détend les neurones, on se prend un petit café, un petit thé pour les théistes. C'est pas l'heure de l'apéro. Quoique.
Ah, les forbans.
Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. On se baladait avec nos Walkman à cassette et notre casque stéréo Dolby, aussi précieux qu'une rencontre du troisième type, à retourner sans cesse avec frénésie la face A, puis la face B, puis la face A, puis la face B de la cassette. Aujourd'hui, c'est un tsunami, une inondation de bruit, un fast-food de son. Alors, revenons à notre cassette. C'est un groupe punk français, originaire de Lyon, composé de Kent Hutchinson, plus tard Kent Cockenstock, guitare et chant. C'est le même mec, sauf qu'il a changé de nom. En fait, c'est des pseudos. Alors, il y a Jello à la guitare, Mickey Snack à la basse et Phil Pressing à la batterie. Et ouais, ça ne s'invente pas. La carrière du groupe commence aux environs de 1975 avec comme nom de scène Hygiène. À l'époque, ils font les premières parties du concert de The Damned, d'Iggy Pop ou encore de Jacques Higelin. Le groupe s'impose avec Téléphone comme un nouveau phénomène du rock français.
Bon, c'est pas Téléphone.
Oh non. Non, c'est pas Téléphone. En 1981, le groupe se sépare. Bon, vous allez me dire, une carrière éphémère, ouais, mais productive. Au total, ils sortent 4 albums studio, 2 albums live, 3 compilations et quelques morceaux, comme on dit, remasterisés, histoire de se faire un petit bibi à la SACEM. Kent poursuit sa carrière solo, qui continue toujours en écrivant des bandes dessinées, des romans, des chansons.
Ah, Topor, non.
Elle a Rio, grand hôtel et chaleur.
Moi devant un pot et un jambon beurre.
Elle dans les couloirs des aéroports.
Moi dans l'autobus de 5 heures.
Finis la journée dans le supermarché. Comme c'est samedi, ce soir c'est la virée. Ouais. Nightclubbing toute la vie, je vais tout clé tomber. Oh,
Alors, c'était El Rio sur l'album Chez les Autres de 1980, tiens. Et bien, tout de suite, c'est à Jean-Pierre pour une histoire historique.
Le 13 juillet 1346, le roi d'Angleterre, Édouard III, débarque avec son armée en Normandie. Son but est de revendiquer le trône de France. Le 26 juillet de la même année, il va arriver à Caen, qu'il va dévaster et dont il repartira avec un butin très important. Il se dirige alors vers le sud et arrive près de Paris, mais il se retrouve bloqué par l'armée française de Philippe VI. Les Anglais, qui ne vont pas à l'affrontement, remontent alors vers le nord et une fois arrivés à Crécy, en Picardie, ils s'arrêtent et ils décident de faire face à l'armée française qui est à quelques jours derrière eux. Le 25 août au soir, les Français arrivent à Crécy et le roi d'Angleterre accepte la bataille pour le lendemain. Il choisit pour la bataille le terrain, le reconnaît et développe une stratégie pour faire gagner son armée. Et il a plutôt intérêt à ne pas se planter sur la tactique car il a 15 000 hommes et les Français en ont 25 000. Sa première ligne sera composée d'archers. Il prévoit aussi de tirer quelques coups de canon. Ça ne servira pas forcément à grand chose, mais ça permettra toujours d'effrayer les chevaux de la cavalerie française. Et du côté français, on va se servir des arbalètes. Une arme précise et puissante, mais qui dysfonctionne en cas de mauvais temps. Et comme vous le savez, nous sommes en Picardie et il pleut souvent. Et justement, ces jours-là, il pleut. Les arbalètes, c'est déjà lent à recharger. Mais là, en plus, les cordes des arbalètes sont mouillées et ça s'enraye. Les archers anglais, eux, n'ont pas ce problème. Ils arrivent à tirer 10 flèches par minute et quel que soit le temps. Alors, pendant que la première ligne française galère avec les arbalètes, des milliers de flèches envahissent le ciel et transpercent les soldats qui pataugent en plus dans la gadoue à cause de l'orage. Pris au piège, les arbalétriers reculent et cherchent à s'enfuir. Philippe VI, qui croit qu'il s'agit d'une trahison, décide de les faire massacrer. La cavalerie s'élance, mais elle est rapidement gênée par le terrain, mais aussi par des centaines de cadavres qui jonchent le sol et par quelques soldats éparpillés dans la cohue ambiante. La cavalerie, qui veut aller au contact des Anglais, a le plus grand mal à monter la côte à cause du terrain boueux. Et pour ceux qui y parviennent, ils sont rapidement désarçonnés. Ils seront une fois débarrassés de leurs chevaux, tués très facilement, handicapés en plus par le poids de leur équipement. Au total, une quinzaine d'assauts seront effectués jusque dans la soirée, mais ils se briseront tous sur les lignes anglaises. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas.
Quand ça veut pas ? À quand ? Pardon.
Ouais, non, là, on était... Tu faisais
pas ça, mais... J'étais pas obligé.
Oui, non, mais c'est bien, Max, c'est bien.
C'est bien.
Alors, je continue parce qu'ils sont... Vous le voyez, chers auditeurs, ils sont atroces. Alors, cette bataille, une des premières de la guerre de Cent Ans, se termine par un carnage. On peut pointer du doigt le commandement de l'armée française qui a été nul du début à la fin. Les soldats fatigués, après une longue marche, n'ont même pas eu droit à une journée de repos complète. Les têtes pensantes n'ont pas jugé utile de prévoir une date plus éloignée pour l'affrontement, ni même de tenir compte du climat. Et le résultat, c'est des centaines d'hommes morts ou blessés au sol. D'autres ont pu s'échapper, tout comme le roi Philippe VI, qui parvient à s'enfuir. Mais quand même avec un gros coup au moral et une sorte d'apathie qui ne va plus le quitter. Après leur victoire, les Anglais arrivent à Calais un mois plus tard. Mais plutôt que d'attaquer la ville de front, ce qui a l'air assez difficile, ils y mettent le siège et ils attendent que la faim fasse sortir les habitants du bois. Et les habitants, eux, ils attendent que le roi Philippe VI vienne à leur secours. Et vous savez quoi ? Ça n'arrivera pas.
Pas de Calais.
Ouais, c'est ça. Merci. Durant le siège de la ville, les Anglais, qui n'ont pas grand-chose à faire, surtout en hiver, vont en profiter pour s'amuser en visitant et en ravageant quelques territoires aux alentours. Et ce n'est qu'au bout d'un an, en septembre 1347, que Calais va se rendre. Sous la pression notamment de son épouse, le roi d'Angleterre épargnera les nobles de la ville et il ne va même pas la dévaster. Il se contentera juste d'y laisser une garnison.
Sa Seigneurie Sérénissime, Son Altesse Édouard III.
Alors, les brothers, c'est dans la poche. On a emporté cette guerre.
On est des winners.
Je les ai pulvérisés, ces franchises, et sans avoir mis mon bassinet.
We are the champion, my
we
friends.
We are the champion. Oui, votre royauté royale. On n'a pas eu à cracher au bassinet.
Ventre bleu, triple buse, mécréant. Amène-moi mon casque et cesse de me bassiner.
Ah oui, maître.
Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm.
C'était Les Doors avec Riders on the Storm. Et tout de suite, on retrouve Max et les fréquences.
Alors, les fréquences, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort.
Ah. Et là, c'est à Max.
Tap, tap, tap.
Je fais tap, tap pendant le jingle. Non, attends. Alors attention, le tap tap, et c'est le moment théâtre.
Ça s'arrête jamais.
Ouais. C'est notre petit moment théâtre de l'émission qui va le bouffe.
Entre eux.
C'est magique, comme à McDo, sauf qu'on est à l'aveugle. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes caché dans les coulisses d'un vieux théâtre français. Pays de Molière et de McDo. Et laissez-vous emmener dans Rêve de Wajdi Mouawad. Ça a déjà commencé. Chut, chut, chut. L'histoire se passe dans un vieil hôtel tenu par une hôtelière. La scène là, c'est dans la chambre qu'un homme vient de louer. C'est un auteur de livres, je crois. Il invente des personnages qui participent à la scène et il y a un fantôme. Ah non, pas celui de Radio Escapade. Ni celui du théâtre, celui de l'hôtel. Chut, chut, l'hôtelière vient de sortir. Dites, est-ce que ce serait possible d'accélérer un peu?
Vous êtes qui, vous?
Je suis l'homme qui marche pour aller jusqu'à la mer et j'aimerais bien commencer.
Tu vois, tu n'as plus le choix. Il est là. Il est encore là. Toujours là.
Je sais, mais merde, ça ne se passe pas comme ça. Il suffit pas d'arriver et de dire « on commence » pour que je commence. Je tiens à vous rappeler à tous ici que de vous tous, je suis le seul à exister.
Pardon ?
Ah mon Dieu ! Ah mon Dieu ! Mon Dieu !
Je suis tout seul dans la chambre, alors on va se calmer 2 minutes.
Excusez-moi, mais je trouve que c'est absolument honteux qu'un auteur ose dire devant son imagination, son rythme et sa création qu'il est tout seul à exister, hein ? Parce qu'alors, il se place comme le plus commun des mortels qui ne voit dans la création rien qu'un passe-temps. Je suis déçu, voilà, car je croyais avoir pris naissance entre les mains d'un artiste convaincu.
Bon ben, je m'en vais. Quand vous serez décidé, vous me ferez signe.
Ouais ben moi aussi je m'en vais.
On se calme et personne ne bouge.
Ça fait des semaines que je viens sans qu'il se passe jamais rien.
Et toi, tu traces loin et tu prépares ta flûte.
Eh merde.
Je ne joue pas de flûte.
Mais je me fous de ta flûte.
Eh merde.
Je peux pas exister dans ces conditions.
Vous allez vous calmer tous les trois.
Moi aussi, je suis là, je suis là.
Et vous allez vous taire et vous parlerez quand on vous le dira. Bon, Willem, malgré ta peur, je te le dis, ne détourne pas l'homme qui marche dans sa colère.
Et merde.
Ne le détourne pas de son soleil, ni de son étoile. Ne le détourne pas de son hurlement. Écoute-moi, Willem, écoute-moi. Hurler en toi, et laisse-le te parler de lui-même. Laisse-le te dire comment, un soir, debout face à l'océan, il dut mettre tout son cœur et son talent au service de la cruauté.
Un homme se lève et marche jusqu'à la mer.
Jusqu'à la mer, oui.
De toute façon, je n'ai plus le choix.
Bon, on commence ?
Ben, on commence et on continue avec Jean-Michel.
Alors c'était Betsy Party. Alors bon, ce groupe-là a fait des chansons, différentes chansons comme Quelle crise, Machine à laver, Betsy Party bien sûr, Otage dollar, Toi, moi, nous, Partir à Zanzibar, Louis, Louis, Louis. Alors si vous écoutez, vous pouvez écouter une bonne partie de leur production musicale sur YouTube bien sûr, c'est gratis. Bon, il y a quelques pubs bien sûr, mais qui parasitent le truc. Alors cliquez sur Skip pour passer les pubs et tapez, 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 Star Shooter bien sûr. Et de suite, c'est à Lydia qui vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, à la sauce Lydia.
Bonjour, bonjour. Alors, voilà, c'est bientôt Noël, l'heure des cadeaux. Ouais, et des dépenses. Ah, sachez qu'en moyenne, cette année, les Français vont consacrer aux fêtes un budget de 491 euros contre 749 euros en 2017. Alors, soit nous devenons moins consuméristes, soit on a nettement moins d'argent, ou bien encore, on achète en ligne chez Wish, Temu et autres Shein. Vous savez, ces sites qui vous vendent tout et n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence. Et quand je dis n'importe quoi, je n'exagère pas. On pensait que des produits extrêmement perturbants tels que des poupées sexuelles à caractère pédopornographique n'étaient vendus que sur le dark web. Pas du tout. Vous les trouvez sur ce genre de site. Comme Shein s'installe au BHV, tout à coup, nos médias se sont dit « Tiens, si on y regardait de plus près !» Alors, soyons rassurés, Shein a retiré ses poupées de leur site. Et puis, vous savez pas, ils n'ont pas fait exprès. Ils ne savaient même pas qu'ils vendaient ce genre de trucs. Ceci dit, venant d'entreprises qui font travailler des enfants, doit-on s'étonner? Ça se trouve, c'est même des enfants qui fabriquent ces poupées. Allez savoir. Voilà, plus de poupées. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il y a avec ce genre de site et qui devrait nous inciter à regarder de plus près à qui on donne notre argent. Tout d'abord, les ouvriers dans ces entreprises travaillent dans des conditions épouvantables pour des salaires de misère. Et comment pourrait-il en être autrement? Si vous trouvez une robe à 5 euros, vous imaginez bien que 1, c'est un produit de piètre qualité et 2, que les petites mains qui les fabriquent sont exploitées. Mais en plus d'être de piètre qualité, les vêtements de l'ultra fast fashion sont toxiques. Ils sont bourrés de cadmium, phtalates et autres perfluoroalkylés, plus simplement des polluants éternels. En gros, ils vous rendent malade. Ils détruisent aussi l'environnement. 75% des matières utilisées sont issues du pétrole, non biodégradable et très énergivore. Et vraiment, êtes-vous sûr de faire des économies en achetant des vêtements sur ce genre de site? Un vêtement de chez Temu, Wish ou Shein est jeté en moyenne après avoir été porté 3 fois. Ça, c'est pour les vêtements. Mais rien n'est aux normes européennes. Prenez les jouets, ils sont non biodégradables, fragiles, toxiques et dangereux pour les enfants. Mais enfin, Lydia, s'ils ne sont pas aux normes, ils devraient être interdits à la vente. Bah oui, en Europe, mais pas sur Internet. De plus, vous imaginez un contrôle des 1,5 milliard de colis qui atterrissent chaque année en France. Impossible. Ah, et au fait, sur ce 1,5 milliard de colis, 800 millions sont exemptés de droits de douane parce que leur montant est inférieur à 150 euros. Bon, on devrait bientôt les taxer à environ 2 euros si la Commission européenne se décide. Parce que tout de même, l'Europe voit atterrir chaque jour sur son territoire 600 avions gros porteurs chargés de marchandises Shein et Temu. Alors j'avoue, moi-même, il m'arrive de consommer chinois. C'est simple, si un produit en France est étiqueté « Made in China », je vais directement à la source. C'est 10 fois moins cher et pour le même produit. D'ailleurs, sur ces produits-là, que vous trouvez dans les magasins en France, eux, ils sont en normes. C'est le prix dans ce cas de figure qui n'est plus aux normes du pouvoir d'achat des Français. Et oui, on s'appauvrit. On aimerait soutenir nos entreprises, enfin ce qu'il en reste. La chute de la production « Made in France » ne date pas d'hier et continue de voir son activité baisser. Le textile « Made in France » ne représente aujourd'hui plus que 3% de la consommation française. C'est le serpent qui se mord la queue. Nous avons de moins en moins d'entreprises, de plus en plus de sans-emploi, de plus en plus de pauvres. Du coup, on achète à l'étranger des produits pas chers, de piètre qualité, pour faire travailler dans des conditions qui ressemblent à de l'esclavage, des gens encore plus pauvres que nous, tout en rendant milliardaires, parce qu'on est sympa, les propriétaires de ces entreprises. Donc, la solution, il faut relancer l'industrie du textile, du jouet, de tout en fait, en France. Payer les travailleurs décemment aussi. Ouais, mais non, on subirait tout de même la concurrence d'entreprises étrangères qui se fichent des droits des travailleurs et de l'humanité en général. Mais on peut tout de même s'interroger sur notre façon de consommer. On le sait, on achète de plus en plus de choses pas chères dont on n'a que peu, voire pas du tout, l'utilité. Prenons les vêtements, on le sait, on porte systématiquement les mêmes vêtements tout le temps. Alors que dans nos placards, il y a des choses qu'on a portées une fois, voire pas du tout. Et parlons des jouets. Vous savez qu'en moyenne, un enfant reçoit 10 de jouets à Noël. Et pourtant, les études tentent à démontrer qu'un enfant qui reçoit tout plein de cadeaux d'un coup se sont dépassés. Donc, il stresse. Il ne sait plus où donner de la tête et n'arrive même plus à apprécier la notion de cadeau. Bien sûr, il est excité et content, mais l'euphorie dure peu de temps. Et surtout, il en voudra toujours plus par la suite, même s'il se désintéresse très vite de tous ses cadeaux. Beaucoup sont utilisés environ 15 jours, puis oubliés au fond d'un placard. Maintenant, souvenez-vous de vos propres Noëls quand vous étiez enfant. Ce qu'il en est resté, c'est la découverte au pied du sapin, des cadeaux, un ou deux, que vous aviez fortement désirés. Mais surtout, vos meilleurs souvenirs seront le partage avec votre famille, le jeu auquel vous avez joué tous ensemble, le repas, les rires, les échanges, le tonton blagueur. Ce n'est pas le nombre de paquets que vous avez eu à ouvrir. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce Noël 2025. Des rires et des échanges, de la complicité dans la chaleur familiale. En bref, fabriquez-vous des souvenirs qui ne se déballent pas. Joyeux Noël à tous! Alors, c'était Work de Charlotte Day Wilson. Alors, ma petite devinette, c'est savez-vous depuis quand on emballe des jouets ou des cadeaux hein, en général?
Depuis quand on emballe les des cadeaux.
Depuis qu'on fait des mauvaises surprises. Ah, c'est suspect, cette histoire de cacher le cadeau qui est à l'intérieur quand même, quoi.
C'est pour conserver les cadeaux, donc c'était avant la création du congélateur, j'imagine.
Pour conserver? Non.
Ben oui.
Non.
Tu réfléchis trop, Jean-Pierre.
Oui, et j'ai réfléchi trop mal, je pense aussi.
Ouais, je sais pas, après t'as reçu beaucoup trop de nourriture comme cadeau de Noël.
Bon, et pourquoi tu nous poses toutes ces questions? Est-ce qu'on t'en pose des questions? Ouais, alors, bon.
Juste après la guerre de 100 ans, je pense. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en pense?
Alors non, alors on retrouve l'idée d'emballage un siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, mais c'était le, il y a le, alors là je l'ai noté parce que pojagi coréen. Alors c'est une technique très, donc très ancienne, mais ça consistait à emballer avec du tissu brodé. On faisait plusieurs pièces comme un patchwork. Donc imagine pour faire un... En fait le cadeau, l'intérieur limite tu t'en foutais parce que l'extérieur c'était une œuvre d'art. Presque. Et pendant très longtemps, jusqu'en 1917, on emballait les cadeaux dans du tissu. Alors dans des petits pochons en tissu. Enfin ouais, c'était ce qu'on faisait, des choses un peu colorées et tout. Et puis en 1917, aux États-Unis, alors il y a deux frères qui avaient une entreprise. Alors les frères Hall, peut-être ça commence à vous donner une idée. Ils avaient donc une entreprise papeterie. Et ils avaient tellement bien vendu leur stylo, des trucs comme ça pour les fêtes, ils se sont retrouvés en manque de tissu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une papeterie, ils ont pris du papier français qui servait pour les enveloppes, comme c'était un peu chic, c'était français, donc tout de suite c'était chic et tout. Et ils ont enveloppé avec ça en disant bah, « désolé, mais on n'a plus de tissu ». Et les gens adoraient, ils ont trouvé ça super cool. Et en 1918, ils ont recommencé avec que du papier. Les gens, bon, ils se sont dit, bon, bah, en fait, ça marche vraiment. Les gens, ils ont demandé, ils voulaient en acheter pour eux-mêmes, pour emballer leurs propres cadeaux. Et à partir de 1919, ils ont inventé le papier cadeau, qui n'est pas écologique du tout, qui coûte plutôt cher pour emballer. Alors qu'avant, avec les tissus, au moins...
Ouais. On les gardait, ça quoi. On pouvait essuyer la vaisselle.
Ça resservait, quoi.
Moral de l'histoire, emballez vos cadeaux avec du PQ français.
Et ouais, comme on dit, emballer, c'est peser.
Non, ils ont fini par faire des papiers très colorés, très avec des produits assez toxiques aussi. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est comme ça que le papier cadeau. Et c'est Hallmark.
Hallmark.
Tu sais, on le voit sur pratiquement tous les rouleaux de papier cadeau, c'est leur marque. Donc ça, c'est toujours eux qui nous vendent.
Non, quand je fais un cadeau, je ne fais pas. Je mets pas de papier comme ça.
Oui, mais t'es un sauvage, toi. Voilà,
je mets du feutre noir dessus, comme ça.
Alors, un petit proverbe chinois, puisque c'est notre nouvelle petite habitude. Si tu veux être heureux ou heureuse, une heure, bois un verre. Si tu veux être heureux, heureuse, un jour, marie-toi. Si tu veux être heureux ou heureuse toute ta vie, fais-toi jardinier.
Ou jardinière. C'était Faites valser vos idées, nous étions en direct. Merci à Aïcha, Max, Lydia, Jean-Pierre et moi-même. Big bisous à tutti la familia.
Merci à
Aïssa pour la réalisation. À bientôt. Merci, bisous, merci.
Bye bye.